bonjour à tous les ONG, dont un petit reportable de la manif rue Friedland, des électriciens et gaziers, qui revendique le partage des profits des entreprises de GDF précieuses. Il y a GDFGS qui a fait 6 milliards et demi de bénéfices cette année, qui en a distribué 3 quarts aux actionnaires. Tous les postes sont bloqués alors que le boulot continue à affluer. On n'a pas remplacé pendant des années la fonte grise. On a vu les accidents que ça a causé. Maintenant, on ne veut pas embaucher de nouveaux personnels pour continuer à travailler correctement. Donc voilà un petit peu du son de la manif, en espérant qu'il va y avoir des embauches, parce qu'actuellement, on a besoin d'embauches. Donc on va mettre la pression à nos directions pour qu'elles embauchent du personnel dans les entreprises GDF Suez et EDF. Voilà, à bientôt, courage à tous.
Bonjour Daniel, Olivier, le géant Loire-Atlantique, jeudi 9 avril, trop dingue. 13h15, journal de France Inter, la loi sur le téléchargement illégal a été rejetée par l'Assemblée nationale. On n'y croit pas ? Bah si, on y croit, puisque c'est la vérité. Simplement que les députés UMP sont partis en vacances un jour trop tôt. Si ça pouvait être le cas à chaque fois, peut-être vivrons-nous mieux. À très bientôt. Au revoir.
Salut Daniel, merci de ton émission de jeudi. Nouna et Guigui, qu'étudiants ont rencontré au quartier latin. Et aussi en 59, à l'auberge de jeunesse de Fréjus, quand le barrage de Malpassé s'est écroulé et que l'eau a envahi la ville. On était descendus pour aider les sauveteurs et on a retrouvé Guigui, tellement magnifique, tellement extraordinaire, qui parlait. Merci de ces souvenirs retrouvés. C'est Claude-Marie de Nîmes. Au revoir.
Oui, bonjour à toute l'équipe de Daniel Mermet de la Basse Égypte Suisse et Domi dans les PO. Ben voilà, je voulais vous remercier doublement pour l'émission d'aujourd'hui. D'abord parce que c'était sympa d'entendre une émission d'il y a à peu près une vingtaine d'années. Et puis surtout, moi, à cette époque-là, je traînais fin des années 70, j'étais à Paris. Et je traînais souvent à Beaubourg et à la contrée Spockarp. Et c'est vrai que j'écoutais souvent Mouna Guigui, qui effectivement, avec son discours anti-américain, son discours de poète, son discours de rêveur, haranguant les foules et tout, et c'était un super souvenir avec son vélo, ça, je crois qu'il avait même une valise en ferraille, et puis ses badges partout. Et voilà, et merci aussi pour la chanson de François Gilazzaro, parce qu'elle est, hélas, elle est encore d'actualité 20 ans plus tard. Voilà, donc c'était une superbe émission. Merci, et puis la lutte continue. Bon courage à tous. Au revoir.
Bon, c'est Thierry. J'ai connu, comme d'autres, Mouna avant mai 68, sur le boulevard Saint-Michel et ailleurs. Je voulais dire qu'il était aussi très courageux quand il allait au printemps de Bourges avec son vélo. Ça lui faisait mal au derrière parce que son vélo avait une roue excentrée. Et donc, c'était difficile de faire le chemin. Ça n'était pas seulement difficile de faire le chemin contre toutes les injustices. Allez, merci. Merci pour Mouna.
Des patrons pris en otage, mais moi ça me rappelle Piron à Bretoncelles dans l'Orne en 74-75. Les ouvriers avaient même licencié leurs patrons et avaient planqué leurs outils de travail. Ils avaient fait de cette lutte une chanson qu'on retrouve sur un vinyle de la fête de la libre expression, une fête organisée par Politique Hebdo en mai 75. Mouna y chantait Dolorosa sur ce disque. Bon, un petit coucou aux frères de Rosita qui avaient participé à cette lutte Piron à Bretoncelles. C'était Michel de Saint-Avertin. Ouvriers, ouvrières, des usines Piron, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, ont licencié leur patron.
Bonjour tout le monde, samedi 11 avril, un repère du 20e exceptionnel. Nous projetons le film Chomsky et compagnie au lieu dit 6 rue Sorbier à 17h. Et la projection sera suivie d'un débat avec Daniel Mermet et Olivier Hazan. On peut, comme d'hab, évidemment, prolonger les discussions en dîner ensemble au lieu dit. On invite les personnes du repère du 19e parce qu'on leur a piqué leur jour, et puis aussi ceux du 14e, et puis, et puis tout le monde. On vous embrasse. Salut.
Allio Marie, non, allio Marie, non, allio Marie boniment, allio Marie, non, allio Marie, non, allio Marie boniment. Julien Coupa, 5 mois de prison sans qu'aucune preuve ne puisse établir sa culpabilité.
C'est marrant, c'est formidable hein, ce message, ce dernier message qu'on vient de recevoir avec le bruit le plus fameux de l'histoire de la radio. Ta-ta-ta-tan. Extraordinaire. Eh bien, c'est signé de quelqu'un. C'est quelqu'un qui... Il y a un auteur à ses notes et il s'appelle Pierre Dac. Et Pierre Dac était, à, bien sûr, l'humoriste, le poète, et tout, mais vous le savez aussi, un très grand résistant puisqu'il était à Londres auprès du général de Gaulle et que depuis Londres, il envoyait ses fameux messages et ses Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. Pourquoi vous parlez de Pierre Dac aujourd'hui ? Ben parce que notre heure va tourner autour d'un homme comme Pierre Dac. Et qui va tourner autour de Pierre Dac ? Eh bien, ce sont les chroniqueurs, qu'on pourrait appeler aussi les chroniqueurs. Avec Norbert Vallée, on a voulu se pencher sur ceux qui, chaque jour, nous disent ce que nous devons penser, qui, à notre place, s'érige, se lève contre l'inacceptable, contre le désordre, contre les jeunes gens qui salissent les cabines téléphoniques, contre les chiens qui laissent des déjections sur la voie publique, ou encore pire, contre les communistes. Je veux parler effectivement de ces chroniqueurs qui, durant des années, la plupart d'entre eux restent très longtemps à l'antenne, eh bien nous ont dit ce qu'il fallait penser. Ils sont des personnages très importants, des rouages très importants dans la fabrique de l'opinion, et la plupart sont oubliés. Connaissez-vous Jean Nocher, Geneviève Tabouy, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Michel Droit, Georges Delamarre, Saint Granier. Eh bien, ils sont les ancêtres de nos actuels chroniqueurs, les Philippe Meyer, les Jean-Marc Sylvestre, les Alexandre Adler, les Bernard Guetta et ou d'autres. Qui sont-ils? Que font-ils? Comment fonctionne leur argumentaire? Quelle est l'incidence de ces interventions sur notre façon de penser, sur l'évidence, sur la doxa, comme on dit, c'est-à-dire ce qui va de soi? Ça nous a intéressé de revenir en arrière et de commencer par ce bruit de casserole venu de Londres et qui combattait quelque chose, qui résistait à quelque chose et qui résistait à certains de ces chroniqueurs ou chroniqueurs. C'est jusqu'à 16h sur Inter. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
À ma connaissance, c'est la première fois que le repère à la bâtisse issue du poulailler est annoncé par voie de presse. Bon, d'habitude, ça passe à la radio. Et que là, il y a un petit encart dans la rubrique Éco-Béglé. Alors, je vous dis, Mermet et compagnie, le prochain repère de la bâtisse issue aura lieu au bistrot Le Poulailler, place du 14 juillet, vendredi 10 avril à 19h, sur le thème des Antilles. Bon, alors, quand on entend à la radio... Les gens qui écoutent là-bas, si j'y suis, ils savent ce que c'est, un repère là-bas, si j'y suis. Donc, s'ils y vont, c'est parce que c'est par référence à l'émission, quoi. Tandis que dans la presse, c'est différent. Les gens peuvent tomber là-dessus. Et alors, c'est ça qui m'a amusé. Je me suis dit, attends, il y a peut-être des gens, ils vont croire que... Alors, Mermet et compagnie, c'est le nom d'une société. Là-bas, si j'y suis, ça fait nom d'agence de voyage, non? Ça serait magnifique d'ailleurs pour une agence de voyage, là-bas si j'y suis. Et sur le thème, les Antilles. Alors les gens vont dire, ah tiens, c'est une nouvelle façon de présenter les produits dans des bistrots, comme avant il y avait des réunions de Tupperware, tout ça. Oh mais tiens, on va y aller. Alors moi je serais pour qu'on laisse parler en premier les nouveaux venus. Oui, pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené ici? Mais voilà, en fait, on compte faire un voyage aux Antilles. Mais on ne sait pas trop comment s'y prendre, alors on voudrait savoir combien ça va nous coûter, si la région est sécurisée, parce qu'il y a eu quand même des événements, ce serait rigolo. Oui, bien sûr. Et alors voilà, donc on a pensé s'adresser à l'agence de voyage à la base si j'y suis, pour partir aux Antilles. Et puis ce qui serait bien, ça serait de jouer le jeu. Et on organise un voyage et puis on leur fait faire un autre voyage peut-être, mais ça serait marrant ça, non? Société de voyage Mermet et compagnie. Voilà, mais c'est ce soir, donc 10 avril, à 19h, au poulailler, à Bègle. En Gironde.
Ouais, et ben je viens d'écouter l'émission de Mouna. Si j'avais connu Brassens, j'aurais dit merci d'exister. Si j'avais connu Brel, j'aurais dit merci d'exister. Si j'avais connu Mona, si je l'avais croisé, j'aurais dit merci d'exister. Alors, l'émission de là-bas, si j'y suis, j'ai jamais rencontré personne, mais je vous remercie d'exister.
En direct avec vous.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Basse, j'y suis avec Norbert Vallée. Attendez-vous à savoir chroniqueur et chroniqueur.
Geneviève Tabouy, les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs, attendez-vous à savoir.
France Inter, il est 9h et 6 minutes, comme chaque samedi à la même heure, la chronique de Michel.
Il y a encore 2 ou 3 ans.
Nombreux sont les congressmen qui ne manquent pas d'humour au Capitole.
Et voilà pourtant qu'ils libèrent une équivoque.
Il y a quelque temps, un groupe d'entre eux
complaisamment les communistes. Ce mot de libération dont ils se gargarisent et nous rebattent les oreilles, quel sens lui donne-t-il?
Parfois qu'un parlementaire avait fait un discours qui n'avait manifestement pour objet que de complaire à ses électeurs.
Il n'y a pas d'ingénieur capable de maîtriser la sortie des gens. Nos technocrates ne sont pas des psychologues.
Confiance, plutôt que ses intérêts.
Le coût global de la République est devenu insupportable à l'économie française. Qu'on le veuille ou non, et ça c'est ni de droite ni de gauche, elle n'a plus les moyens de consacrer plus de 50%.
Non, 51%, oui, 49%.
La radio n'est pas toujours un fleuve tranquille. Il y a des voix qui vous parlent plus que d'autres. Parmi celles qu'on vient d'entendre, il y a celles qui vous disent quelque chose qui suscite de terribles, terrifiantes nostalgies. Et d'autres qui vous disent rien du tout, qui ne parlent à personne. Et pourtant, beaucoup de ces voix que vous entendez, celle de Geneviève Tabouy, celle de Michel Droit, celle de Saint-Granier, celle de Jean Nocher, etc., eh bien, pendant des années et des années, sont intervenues sur les antennes des radios et essentiellement de notre radio, de la radio nationale. Les voix les plus fameuses. Alors vous allez dire, mais des voix, on en a beaucoup. Mais ce qu'on a choisi avec Norbert, c'est de vous faire entendre les chroniques et les chroniqueurs politiques, les éditorialistes, ceux qui chaque jour donnent le ton, ceux qui, dans leur façon de parler, oscillent, hésitent entre le curé et le tribun, entre le sermon et le discours, et qui chaque jour, chaque matin, chaque soir, nous disent inlassablement ce qu'il faut penser, qui se dressent pour défendre la morale et le bon sens. Les voix indispensables qui éclairent nos chemins, qui nous disent le mal et le bien, et qui bien sûr sont, se savent et se prétendent indépendantes, vigilantes, impertinentes, et qui se veulent pédagogiques, informées, accessibles, équilibrées. Mais que disent-elles au juste? Que disent-elles au juste? Eh bien, curieusement, ces voix qui ont parlé à des millions et des millions d'auditeurs et qui continuent aujourd'hui, parce que cette histoire continue, ces voix continuent, se perpétuent, eh bien, il n'y a aucune critique, aucun appareil critique. Combien trouverait-on d'études universitaires sur le sens de ces voix, sur le sens de ces propos, sur leur incidence, sur l'opinion, sur la fabrique de l'opinion? Curieux, non? Curieux. Il a fallu qu'on creuse avec Norbert dans les archives, grâce à Lina, grâce à nos astuces aussi, on a pu retrouver un certain nombre de ces chroniqueurs. On va voir que, contrairement à ceux qui s'inquiètent de certaines chroniques qu'ils jugent trop subversives ou trop drôles ou trop à gauche, que jusque-là, en tout cas, ça n'a pas été le cas. La plupart de ces chroniqueurs sont des conservateurs, voire même des gens franchement réactionnaires, qui réagissent à l'ordre du temps, au mouvement du temps, et pourquoi pas le dire aussi, à l'opinion telle qu'elle marche. On va en avoir la preuve. Et puis il y en a d'autres qui sont très judicieux, qui ont deviné leur époque, qui sont en phase avec l'époque, et d'autres qui enfin apportent des analyses très claires, très très éclairantes, et qui font leur métier. Voilà, c'est notre sujet du jour. Attendez-vous à savoir. C'était la façon dont Geneviève Tabouy s'adressait au public. Elle a fait ça pendant des années et des années. C'est presque plus de la musique que du sens. C'est jusqu'à 16h. C'est la basse édition.
Tous les matins je me réveille, quand vient chanter à mon oreille le transistor de mon voisin qui matinal se met en train en écoutant Intermatin. Et ça me donne du courage pour descendre de mon nuage. À mon tour je prends la radio et me voilà tout aussitôt dans le vent et dans le tempo. France Inter, France Inter, jour et nuit c'est la radio que je préfère. France Inter, oui c'est le programme radio que je préfère. Chaque jour comme une compagne, c'est ma radio qui m'accompagne.
L'animateur comme un ami vient chasser ma mélancolie quand je suis seule, quand je m'ennuie.
Comme tous les conducteurs j'écoute en voiture inter-service route.
Pour rouler, je ne m'en fais pas, on me tire toujours d'embarras sur bagatelle 33-33.
Sur la route de nos vacances, nous écoutons Intervacances.
Sur les chemins de notre été, sur les plages ensoleillées, sans trop penser à la rentrée.
France Inter, France Inter, jour et nuit c'est la radio que je préfère. France Inter, jour et nuit c'est la radio que je préfère.
Nous ne nous connaissons pas bien. Vous savez qui je suis? Je m'appelle Donna. Je suis psychothérapeute.
Je m'appelle Emmanuel. C'est vous qui allez vous occuper de moi, jour et nuit.
La mesure de suppression des affichages trop audacieux en matière de films érotiques
TF1
répond sans doute aux souhaits d'une large fraction de la population.
9 mars 1964.
Mais si l'on constate qu'en 1974, pour la seule région parisienne, ces films ont totalisé plus de 6 millions d'entrées, il est permis de croire que ceux-là même que choque l'affichage des films érotiques constituent une bonne partie de leur clientèle. Personne ne peut donc penser sans hypocrisie qu'une ville heureuse doive s'interdire le sexe. Le spectacle de chair suggestive ou habilement dévoilé, ne constituant pas à la réflexion une agression plus grave que d'autres excès couramment admis dans le monde, tels que la violence, la guerre, l'injustice. Déjà, en ce qui concerne le 7e art, la bataille du sexe perd de son actualité, puisque le cinéma érotique, en devenant un phénomène de société, s'intègre de plus en plus au cinéma tout court.
There's a time for love. Oh, my man.
Ah, 1975, Emmanuel. L'année érotique 69 a eu des suites. Et ce début des années 70, le monde bascule, tombe à la renverse ou à quatre pattes, comme vous voulez. C'est la révolution sexuelle en France. Et pas seulement en France, avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 au pouvoir et son libéralisme, eh bien ce sera ce libéralisme-là. L'autre sera le libéralisme économique dont nous connaissons aujourd'hui les suites. Tout simplement, cette libération sexuelle est due à des découvertes concernant le contrôle des naissances qui va permettre aux femmes de jeter leur bonnet par-dessus les moulins et à tous d'en profiter puisqu'il y aura dans l'histoire de l'humanité une toute petite parenthèse durant laquelle on contrôlera les naissances et on ne craindra pas. On ne craindra pas d'attraper la mort en faisant l'amour. Très bien, tout ça, vous le savez. Mais il y a quelqu'un qui se battait contre ça. Tous les jours sur France Inter, entre 1969 et mai 1981, c'est-à-dire durant 12 ans, Michel Droit, un journaliste ouvertement réactionnaire, partisan de l'ordre et de la vertu, cette phrase étant du Figaro, le journal où il travaillait, qui le qualifiait de journaliste ouvertement réactionnaire, partisan de l'ordre et de la vertu, eh bien, tous les matins, Michel Droit se levait et se battait contre cette déchéance, contre ce déclin. Il avait été héroïquement l'intervieweur du général de Gaulle entre 1965 et 1969, et il est emblématique, disons, de ces chroniqueur. Il est le chroniqueur par excellence. Beaucoup d'entre vous se souviennent de cette voix grave, très bien portée, et qui, ce jour-là, part en guerre contre les moulins à vent.
En cherchant au plus profond de moi, mes émotions, mes fantasmes resteraient-ils les mêmes ?
France Inter, il est 9h06, comme chaque samedi à la même heure, la chronique de Michel Droit.
Il y a encore 2 ou 3 ans, quand l'un d'entre nous annonçait en s'appuyant sur quelques exemples d'ailleurs faciles à distinguer, l'arrivée imminente de la vague nauséabonde du cinéma pornographique, on lui riait au nez, on le montrait du doigt et on le présentait comme un père la pudeur complètement rétrograde, un Cassandre débile, s'affolant pour presque rien, pour une moitié de fesse ou pour un quart de beurre et ne faisant au fond qu'attirer l'attention sur quelques manifestations tout à fait négligeables dont nul n'aurait jamais parlé si nous autres n'avions pas commencé à le faire. Eh bien, je vous assure qu'aujourd'hui, le fait d'avoir vu juste, et ce n'était d'ailleurs pas très sorcier, et même d'avoir eu raison au-delà de ce que nous pouvions craindre, ne nous réjouit nullement. Car c'est vrai, nous en sommes arrivés à ce point que depuis mercredi dernier en tout cas, l'affaire est devenue une affaire d'État. Nous n'en espérions, ou plutôt, nous n'en redoutions pas tant. Car j'ajoute que si l'on nous riait au nez, quand nous annoncions ce qui est arrivé, on nous présentait aussi comme les ennemis réactionnaires et répressifs, allons-y carrément, de la plus élémentaire liberté d'expression. Or, je vais vous dire une chose. J'ai personnellement fait partie, pendant plusieurs mois, de cette fameuse commission de contrôle des films, qu'on appelle aussi parfois commission de censure. Je puis vous dire que lorsqu'il m'est arrivé de demander, pour la modeste part qui était la mienne, qu'on épargnât au public tel film particulièrement obscène et dégradant, je n'ai jamais, mais vraiment jamais eu le sentiment de porter la moindre atteinte à la moindre liberté d'expression, pour l'excellente raison qu'il n'y avait aucune forme d'expression dans ce genre de film, mais simplement l'étalage d'une sorte de vomissure. Et pourtant, à ce moment-là, nous n'en étions pas au hardcore, où l'on nous montre aujourd'hui, vous le savez, sur l'écran, des actes sexuels réellement exécutés, et en général parmi les plus gracieux, je passe. Je sais bien que la liberté ne se divise pas. C'est une très belle formule. Seulement, la liberté ne devrait pas non plus pouvoir se prostituer. Or, si pornographie dérive bien du grec porné, qui signifie la prostituée, ce n'est à rien d'autre qu'à une prostitution de la liberté d'expression que nous assistons lorsque le droit est accordé d'envahir nos écrans, nos salles, nos quartiers, nos journaux, par l'intermédiaire de la publicité, à des films produits et réalisés par des gens qui ne font donc rien d'autre qu'un métier de proxénète et interprété par des chevaliers et des chevalières à la triste fesse qui ne font rien d'autre que de prostituer ce qui leur sert de corps, non pas entre les quatre murs d'une chambre d'hôtel de passe, mais sur un écran devant des milliers de spectateurs. Il est donc évident que même si le gouvernement le déplore, le moment est venu pour lui, et c'est ce que l'immense majorité de l'opinion lui demande, le moment est venu pour lui de donner, sans doute un peu tard, mais raison de plus pour ne pas tarder davantage, le coup d'arrêt à la liberté, non pas de s'exprimer, mais à la liberté de l'obscénité. Le coup d'arrêt au sinistre étalage du vice, au sordide jaillissement de... Enfin, bref. Alors, bien sûr, il faudra pour cela passer outre au tortillement d'intellectuels en délire, toujours prêts à confondre les fleurs du mal avec les jouisseuses volcaniques, et à prolonger de 6 lettres le prénom de Madame Bovary pour essayer de faire croire qu'elle s'appelait Emmanuel. Bien sûr, il faudra rester sourd aux hurlements de ceux qui ont trouvé un moyen facile de faire fortune en produisant de la mousse d'ordure et en permettant la dégustation de celle-ci pour le prix d'un fauteuil de cinéma. Bien sûr, il faudra revenir sur ce faux libéralisme, peut-être généreux, mais sûrement imprudent, et dont les bénéficiaires ont été incapables de ne pas abuser. Mais je crois que cela en vaut la peine, pour d'évidentes raisons de salubrité publique d'abord, et aussi de vraie liberté, la liberté de nos regards et la liberté de nos choix. À samedi prochain.
Femmes qui parlaient dans les radios, on devine derrière vos voix des yeux, des visages, des seins, des jambes, une façon de respirer, de porter la poitrine, la façon dont elles se soulèvent pour faire penser à la mer. Il y a l'accent, c'est bon l'accent. C'est tout un pays qui sort d'une bouche, avec ses maisons, ses forêts, ses sentiers, ses usines. Et puis dans les voix, toutes les angoisses. D'où viens-tu? Où veux-tu? Quelqu'un m'aime-t-il? Est-ce que j'existe pour quelqu'un? Une voix chérie, tendre, dorlotée sur les micro-sillons du rêve. Parfois, il vaut mieux n'entendre que les voix, et ne pas vouloir voir le visage, ne pas vouloir percer le secret. Laissez parler les voix par le masque de la radio.
Au Vélodrome d'hiver, 30 000 Parisiens de toute classe sociale assistent à une manifestation monstre affirmant leur volonté de faire bloc contre le bolchevisme et de recréer l'ordre français. Se succède à la tribune Joseph Darnan.
Toute la France, des troupes qui sont prêtes à se battre. Nous préférons, quant à nous, mourir que de subir le triomphe d'Israël.
Jean-Hérold Bacchi.
Il n'y a pas de solution boiteuse. Françaises et Françaises, on vous demande d'être assez courageux, assez décidés, assez français pour tout dire, pour prendre parti. Il faut être avec les légionnaires du front de l'Est contre les assassins du front de France. Ou bien alors, il faut entrer et le dire, entrer dans le camp du terrorisme contre la patrie. Mais il n'est pas possible d'être hésitant entre les deux. Ou la France sera exsangue sans libération, où elle sera libérée des tueurs moscovites.
Philippe Henriot.
Pour vous exciter au meurtre, à la vengeance, à la haine entre Français, ce sont les fourriers de la guerre civile. Vous n'avez donc pas compris que cette radio anglaise en français, c'est une entreprise montée par des fripouilles à l'usage des imbéciles.
Alors on a commencé avec Michel Droit dans les années 70, donc il fut sans doute le plus emblématique des chroniqueurs radiophoniques. Il faut rappeler qu'il a été élu à l'Académie française au fauteuil de Joseph Kessel. Il est décédé aujourd'hui, ce Michel Droit, dans des conditions assez étonnantes. Mais revenons à ce que vous venez d'entendre, les deux que vous venez d'entendre, qui eux ont été aussi emblématiques, mais quand même d'une autre époque. Il s'agit de Jean-Hérold Bacchi et de Philippe Henriot. Ils ont été les voix de cette fameuse Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Eh bien, c'était ces voix-là, c'était les voix de ces deux Français, Jean-Rol Paqui et Philippe Henriot. Philippe Henriot était le porte-parole, le secrétaire d'État à la propagande au temps du gouvernement du maréchal Pétain de Vichy. Et Jean-Rol Paqui, lui, était ouvertement un collaborateur, un collaborationniste, comme on disait à l'époque. Ils avaient une tribune très importante, la radio était très écoutée dans ces périodes, et ils eurent beaucoup d'impact sur l'opinion et sur le public, luttant quotidiennement contre les Anglais, contre les francs-maçons, contre les Juifs. Tous deux ont été fusillés à la Libération. Il est intéressant de revenir sur une des chroniques de Philippe Henriot qui s'attaquait à qui donc ? À Pierre Dac, ce jour-là, dont nous venons de parler. Philippe Henriot sur Pierre Dac.
Le 15 août 1893, jour anniversaire de la naissance de Napoléon, s'il vous plaît, naissait à Chalon-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Carr. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. Incapable, bien entendu, de travailler à la grandeur d'un pays qui n'était pour lui qu'un pays de séjour passager, une provisoire pierre promise à exploiter, il se consacra à l'œuvre à laquelle tant de ses pareils se sont employés et il entreprit de jouer son rôle dans la démoralisation de ces goïms pour lesquels les siens ont toujours eu tant de mépris. Une sorte d'esprit desséchant et ricaneur, une perpétuelle aspersion d'ironie sur tout ce qu'on avait l'habitude de respecter, une sottise corrosive à force d'être poussée à l'extrême, lui fit une clientèle. Tout ce qu'il y avait chez nous décidé de ne rien prendre au sérieux, tout ce qui essayait d'échapper à la redoutable étreinte d'un devoir sévère par une sorte de blague grossière et épaisse, se rua pour l'écouter et le lire. Et je n'ai jamais vu sans une amère inquiétude une jeunesse, certes amie de la plaisanterie sans arrière-pensée, prendre plaisir à une littérature de bas étage, dont les farantes nullités barbouillées hâtivement d'une caricature d'esprit enchantaient son goût de la parodie et de l'irrespect. Comme il devait se frotter les mains, le jeune Isaac André, à voir qu'il pipait à son gluau infâme des étudiants, de futurs intellectuels dépravés par ses soins. Son nom était célèbre, et dans la France de 1939, tel qu'il ne connaissait pas le nom de Branly, connaissait celui de Pierre Dac, l'homme illustre de l'os à moelle, dont tant de Français faisaient en effet leur pâture hebdomadaire et qu'ils s'arrachaient au kiosque des journaux. Cet Isaac André était bien entendu prédisposé à fuir la France à laquelle en fait rien ne l'attacherait dès qu'elle se trouvait soumise à l'épreuve. Il ne trouva pas tout de suite le moyen de s'échapper. Le 16 novembre 1941, il allait pourtant passer en fraude la frontière espagnole aux environs de Bagnoul-sur-Mer quand il fut arrêté. Le 26 mars 1942, le tribunal de Céret le condamnait à un mois de prison et à 1200 francs d'amende. Il purgeait sa peine à la prison de Perpignan. Il avait bien entendu déclaré pour sa défense qu'il était en train d'excursionner dans la montagne quand il s'était égaré. Personne ne comprend mieux que moi cet Isaac en perdition. Ce loufoque qui avait industrialisé la loufoquerie n'avait pourtant pas perdu la carte, bien qu'il en ait dit. Et je ne me soucierai pas de ce faux Dac qui a depuis lors réussi à s'évader si Londres, décidément à court de speaker, me l'avait chargé de me répondre.
Eh bien, la réponse vint de la part de Pierre Dac, l'auteur de tout un tas de choses, de feuilletons, de chansons, et de sentences mémorables du genre « il vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui plutôt qu'un jour où il fait beau ». Pierre Dac, si là-bas était ici, Pierre Dac serait enseigné dans les écoles, ses œuvres seraient partout et il serait un modèle d'une vie qui fut une vie à la fois poétique, c'est-à-dire une vie d'humour, mais aussi une vie politique, j'y faisais allusion dans cet engagement qui fut le sien dans la résistance. Et face à ce Philippe Henriot, Pierre Dac ne fait pas le martyr, ne se replie pas, mais debout répond.
Radio Paris est allemand.
Veuillez écouter maintenant Bagatelle sur un tombeau. Monsieur Henriot s'obstine. Monsieur Henriot est buté. Monsieur Henriot ne veut pas parler des Allemands. Je l'en ai pourtant prié de toutes les façons, par la chanson, par le texte, rien à faire. Je ne me suis attiré qu'une réponse pas du tout aimable, ce qui est bien étonnant, et qui, de surcroît, ne satisfait en rien notre curiosité, pas question des Allemands. C'est entendu, monsieur Henriot. En vertu de votre théorie raciale et nationale socialiste, je ne suis pas français. À défaut de Croix Gamée et de Francisque, j'ai corrompu l'esprit de la France avec le Samuel. Je me suis, par la suite, vendu aux Anglais, aux Américains et aux Soviétiques. Et pendant que j'y étais, je me suis également vendu aux Chinois. C'est absolument d'accord. Il n'empêche que tout ça ne résout pas la question. La question des Allemands. Nous savons que vous êtes surchargé de travail et que vous ne pouvez pas vous occuper de tout, mais tout de même... Je suis persuadé que les Français seraient intéressés au plus haut point si, à vos moments perdus, vous preniez la peine de traiter les problèmes suivants dont nous vous donnons la nomenclature, histoire de faciliter votre tâche et de vous rafraîchir la mémoire. Premièrement, le problème de la déportation et des camps de la mort. Deuxièmement, le problème des prisonniers. Troisièmement, le traitement des déportés et des prisonniers. Quatrièmement, le statut actuel de l'Alsace-Lorraine et l'incorporation des Alsaciens-Lorrains dans l'armée allemande. Cinquièmement, les réquisitions allemandes et la participation des autorités d'occupation dans l'organisation du marché noir. Sixièmement, le fonctionnement de la Gestapo en territoire français et en particulier les méthodes d'interrogatoire. Septièmement, les déclarations du Führer dans Mein Kampf concernant l'anéantissement de la France. Peut-être me répondrez-vous, monsieur Henriot, que je m'occupe de ce qui ne me regarde pas. Et ce disant, vous serez logique avec vous-même, puisque, dans le laïus que vous m'avez récemment consacré, vous vous écriez notamment. Et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre DAC prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui? Eh bien, monsieur Henriot, sans vouloir engager de vaines polémiques, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps... On sait ce que cela signifie la France, et aussi ce que cela signifie l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Alors, pourquoi ne pas nous dire ce que cela signifie pour vous, l'Allemagne? Un dernier détail, puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. C'est d'aventure, vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, Entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et à la sixième rangée, arrêtez-vous devant la dixième tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez.
Demandez le dernier succès du docteur Goebbels avec la photographie du Führer et des principaux collaborationnistes en uniforme de pendu. Demandez la complainte du nazi. Écoutez bien, on va vous chanter le premier.
Miliciens, moucheurs, tristes apôtres, cette complainte est également la vôtre. Vous les traîtres, les vendus, les fourmis, vous les lâches et les la vôtre aussi. Tortionnaires, bourreaux et mercenaires, et le rythme votre heure dernière. Collaborateurs, écoutez-la bien, c'est pour vous que chante ce refrain. C'est la complainte des nazis, c'est la complainte des pourris, qui met au ventre des salauds la peur de la corde ou du poteau. Elle accompagne en quelques mots l'agonie de l'ordre nouveau. À vos potences, hommes de Vichy, c'est la complainte des nazis. À vos potences, hommes de Vichy,
c'est la complainte des nazis.
Le moment même si l'on considère le taureau comme une bête sauvage,
un peu tard,
il s'agit d'un spectacle
pour ne pas
que je trouve attristant
le
pour des gens civilisés.
À la liberté de l'obscénité.
Nombreux sont les congressmen qui ne manquent pas d'humour au Capitole.
Vous régalez chaque jour de la voix de Bernard Guetta, d'Alexandre Adler. Vous regrettez Jean-Marc Sylvestre comme Philippe Meyer et d'autres. Mais vous savez, bien sûr, que ces grands chroniqueurs politiques, ces gens qui nous aident à penser, à nous éclairer dans la vie, eh bien, ils ont une histoire, ils ont des ancêtres. Et ces ancêtres, nous les écoutons aujourd'hui, certains grands chroniqueurs. Cœur des radios et notamment de la radio publique qui en leur temps eurent des millions et des millions d'auditeurs et qui sont certains oubliés, d'autres pas du tout. Il y a des mots, des voix, des accents qui réveillent chez certains d'entre vous, là en l'occurrence les plus âgés, mais on continue lundi, on se rapprochera de notre époque. Et un nom comme celui de Jean Nocher, par exemple, Jean Nocher, hop, il suffit, je dis ce nom, et pour des dizaines de milliers d'auditeurs, c'est « Ah, tu te souviens, je me souviens !» Et voilà Jean Nocher, qui lui s'inscrit effectivement dans cette tradition des chroniqueurs très, très conservateurs. Il a opéré sur les antennes, je ne sais combien d'années Jean Nocher était présent. Un tout petit échantillon de l'art de Jean Nocher concernant Jean-Paul Sartre. En 1947, Jean Nocher écrit au sujet de Jean-Paul Sartre, je cite, « Enterrons cette pourriture et que la jeunesse se lève pour donner un autre souffle à la France, une morale qui ne mène pas à coup sûr au plagiat, au masochisme, à l'inceste, à la pédérastie, à l'opiomanie, à l'onomotopisme, à la psychasthénie
pathologique, à la démence précoce, à l'impuissance psychique. L'heure va sonner où une autre école rentrera à la France son vrai visage, un visage au regard droit. Monsieur Jean-Paul Sartre, c'est du Jean Nochet. Il a évolué, mais est-ce bien sûr le voilà parlant de la drogue?
En direct avec vous, voici Jean Nochet.
La France était jusqu'à présent un pays où l'on se droguait peu. Mais je vous avais mis en garde contre les dangers d'une certaine mode qui nous venait d'ailleurs de l'étranger, notamment par les beatniks et par certains milieux d'esthètes. Des orgies à la marijuana et aux stupéfiants avaient failli avoir des issues tragiques. Vous rappelez cette jeune fille trouvée agonisante et sauvée de justesse après une surboom consacrée à la drogue. D'urgence, le gouvernement avait pris des mesures pour réglementer la vente de certains médicaments utilisés par ces maniaques. Néanmoins, le fléau risque de s'étendre puisque les policiers de la brigade mondaine viennent de saisir 25 doses de LSD, ce terrible produit qui rend fou, chez un couple éminemment responsable. Elle, 23 ans, brillante étudiante en sociologie, fille d'un haut fonctionnaire, lui, professeur, agrégative de philosophie, s'il vous plaît. Ils ont avoué cyniquement en déclarant qu'ils désiraient faire des expériences psychiques, probablement en matière à un livre dont ils attendent sans doute la gloire littéraire, puisque maintenant on l'accorde volontiers aux anormaux et sadiques de tout genre. Le LSD a d'ailleurs valu le succès au premier savant qu'il a expérimenté sur lui-même. Ce savant fit école. On se demande si la science ne devrait pas quelquefois rester muette, car l'usage du LSD s'est étendu aux États-Unis au point qu'il est maintenant le dieu d'une nouvelle religion lancée par deux professeurs d'université qui ont fait, tenez-vous bien, 1 million d'adeptes en proclamant, je les cite, que cette drogue est une arme révolutionnaire qui permettra à chacun de réaliser qu'il n'est pas un robot mis sur cette terre pour recevoir un numéro de sécurité sociale et pour se perdre dans ces conformismes que sont l'école, la famille, la carrière et les disciplines. Ce sont en général des intellectuels qui se livrent à ce nouveau jeu diabolique. Ils se justifient en invoquant le droit de tout connaître et de tout essayer, mais méfions-nous car cette position est déjà prise chez nous par des savants éminents qui se disent d'esprit avancé et qui ne mesurent pas toujours la portée de leurs paroles. N'est-ce pas la preuve de ce que nous répétons ici si souvent? L'intelligence sans la morale est dangereuse, car science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Or, méditez bien cet exemple. Nous en sommes au point où un professeur de philo, chargé d'enseigner la sagesse à nos enfants, se spécialise dans l'étude et l'usage de la drogue qui rend fou. À demain, bonsoir.
C'était Jean Nochet.
Alors tous réacs, tous conservateurs, tous comme ça, eh bien non. Il y a évidemment celui qui est allé à contre-courant, qui a donné sur la radio nationale des chroniques ébouriffantes, formidables, réconfortantes, loufoques, non sensiques pour tout dire. Il s'appelait Jean-François Noël, c'était au milieu des années 60, jusqu'au milieu des années 60, il avait commencé à la fin des années 50, et, écoutez bien, ça s'appelait « Les colères » de Jean-François Noël.
François Mauriac a écrit un jour « La vieillesse est un naufrage ». Mais nous savons que la mort dont la victoire est incertaine aime bien aussi l'enfance et frappe n'importe où. Dans le monde de toutes les futilités, de tous les vices, de tous les orgueils, de toutes les vanités, après tout, c'est le mien, c'est celui que j'ai choisi. dans le monde de tous les trompe-l'œil et de la poudre aux yeux, dans celui du théâtre, du cinéma, de la radio, de la télévision, du cabaret, du music-hall ou de la mode, voire même du journalisme, et nous savons que c'est le pire, le facteur ne sonne jamais trois fois, et on lui ouvre du premier coup. La disparition soudaine, brutale, prématurée, de Maria Lopez, de Gérard Philippe et d'Henri Vidal, ne nous rappelle pas seulement que Dieu viendra comme un voleur, mais que les êtres les plus romanesques, les plus mythiques, n'échappent pas à la terrible loi de l'espèce. Il faut avouer toutefois que la bande magnétique, l'enregistrement de la voix humaine, l'image, sa couleur, son relief, son mouvement, prolonge le miracle de la vie, abolit les distances comme il abolit le temps, rapproche enfin les cœurs. Louis Jouvet, Dulin, Jules Berry, Pitoyev, Rémus, Sacha Guitry sont morts depuis longtemps, mais qui peut vraiment, surtout parmi les jeunes, l'assurer? Pour l'assurer, il aurait fallu les connaître vivants. En revanche, qui peut également assurer que Cocteau, Charlie Chaplin, Maurice Chevalier, Alice Cossea, Arletty ou Marlène Dietrich n'aient pas depuis longtemps disparu? Vous les connaissez, vous? Vous les avez vus, ces gens-là? Vous connaissez leur appartement, leurs femmes, leurs enfants, leurs comptes en banque, leurs soucis, leurs drames, leurs parents? Moi, pas! Je ne connais que leurs images d'Épinal. Un paysan du Berry, qui n'avait jamais de sa vie été au cinéma, il fut poussé récemment par sa bru, ma propre belle-sœur, qu'à un quart, dans sa carriole, car il existe encore des carrioles au Berry, il consentit à s'enfermer dans une salle obscure pour y voir un film. C'était à Châteauroux, chef-lieu du département de l'Indre, 36 420 habitants, à l'Apollo, il y a 2 ans, en 1957, et quand il revint dans sa ferme, au lieu dit les Bouchures, qu'il n'avait pas quitté depuis 1918, entre Arton et la Châtre, en bordure de cette sombre dépression qu'on appelle la Vallée Noire, où les souvenirs de Madame George Sand sont encore si vivaces. Il eut ce mot assez extraordinaire, le cinéma, c'est rien que des morts. Car pour lui, ce paysan du Berry, pour lui, le cinéma, ses photos noires et blanches, fussent-elles animées et fussent-elles parlantes, n'avaient de sens qu'intemporel. Le miracle du cirque, c'est qu'il a lieu tous les soirs et qu'il ne ferme jamais et que la musique continue.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots, des mots. Des mots comme à la radio. Ça ne dérangera pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes. Ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute. Ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste un peu de bruit et rien de plus. Tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur. Ce sera tout à fait.
Merci à tous. C'était une émission préparée par Norbert Vallée. Merci aux amis documentalistes de l'INA. À lire les années radio 49-89 de Jean-François Remonté et Simone Depouze, édition de l'Arpenteur. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse du Suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire vos commentaires, ainsi que sur labas.org, même jeu, réécoute, commentaire. Souhaité. À la technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Florent Layoni, c'est Coy Nguyen et Raphaël Moutert qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry et Agnès Le Bot. Attend vos messages sur le répondeur de la basse UGC au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37 et n'oubliez pas, lundi, même si c'est Pâques, on continue le deuxième volet de ces chroniqueurs, attendez-vous, à savoir réclame.